Bien, nous avons du pain sur la planche et vraiment j'ai pris énormément de retard. Parti comme c'est parti, on ne va pas dépasser 1840 cette année. Nous allons reprendre les hostilités, mais je crois qu'il est nécessaire de vous faire ce tableau des sociétés à l'époque ottomane classique parce qu'il faut un point de départ quelque part. Alors, on vient de me reposer la question de savoir pourquoi les chrétiens, en dehors de la stabilité du mariage, ont une croissance démographique plus importante que celle des musulmans à l'époque ottomane. Il y a une raison fondamentale, la première aussi, c'est que les chrétiens sont en relation directe avec les puissances chrétiennes extérieures à l'Empire. Alors, d'une part, vous avez l'Église de Rome, qui a entrepris depuis le XVe siècle un retour offensif en Orient par le biais d'ordres missionnaires qui sont en train de rallier ou d'essayer de rallier les Églises orientales à l'autorité de Rome, tout en conservant leur liturgie orientale. Alors, passons sur l'affaire compliquée de l'Église maronite qui prétend avoir toujours été catholique, ce que d'autres contestent, probablement à juste titre. Mais pour les autres Églises catholiques orientales, le problème est réglé. Du XVe au XVIIIe siècle, un certain nombre de chrétiens orientaux se rallient à Rome. Ils se rallient à Rome et ils sont encadrés par des missionnaires catholiques venus de Rome, de la Congrégation de la Propagande. Les jésuites sont au premier rang, comme d'habitude. Et donc, ça vous donne le fait que les chrétiens catholiques orientaux sont la première population orientale à connaître les rythmes culturels européens. Ils participent à la réforme catholique. L'Église tridentine catholique s'installe en Orient avec toute la nouvelle religiosité occidentale. Il suffit que vous alliez dans une église orientale catholique aujourd'hui, maronite ou autre, pour voir Saint-Antoine de Padoue et autres, démonstration de cette présence ancienne. Présence ancienne qui aussi fait que Rome crée des collèges pour les ecclésiastiques orientaux à Rome, collèges maronites et autres, que ces jeunes sont donc élevés dans un des grands centres culturels de l'Europe latine, et ensuite renvoyés pour encadrer les églises orientales. Alors, on a pu dire qu'il y avait une OPA de Rome sur les églises orientales, mais d'autres ont pu dire que Rome a sauvé les églises orientales en leur insufflant un souffle nouveau avec l'arrivée massive de ces missionnaires. Il faut noter que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ainsi, Rome éduque ces ecclésiastiques arabes qui vont répandre la culture arabe en Occident. Pour un exemple tout à fait simple, les trois premiers professeurs de langue arabe au Collège de France au XVIIe siècle seront des maronites venus de Rome. Et c'est eux qui vont créer l'orientalisme français entre 1620 et 1660. Donc on voit que les échanges culturels fonctionnent dans les deux sens. Alors, question de terminologie, à l'exception de l'Église maronite qui n'admet pas le terme, on appelle toutes ces églises orientales qui se rallient à Rome les églises uniates. L'Église orthodoxe et l'Église arménienne, elles, sont aussi les gagnantes de l'Empire ottoman, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître. Tout simplement parce qu'elles ont été reconnues au début de la conquête ottomane, en théorie par Mehmed II Fatih, le conquérant de Constantinople, comme église reconnue par l'Empire. Et l'Empire va gérer une partie de son domaine par le biais de l'Église orthodoxe. Ce qu'on appellera le Fanar, on reviendra sur ce thème, c'est le quartier de Constantinople où il y a le patriarcat œcuménique de Constantinople. Une partie des Balkans ottomans sont gouvernés par des Fanariotes et une partie des relations extérieures de l'Empire sont tenues par des chrétiens orthodoxes, qu'on a Fanariotes, qui envoient leurs enfants en Occident pour apprendre les langues européennes, pour faire l'intermédiaire entre l'Empire ottoman et les Européens de l'Ouest. Ça explique aussi un phénomène sur lequel on a mis longtemps à comprendre ce qui s'est passé, mais qui est finalement tout à fait simple. Quand les Arabes sont arrivés au 7e siècle et qu'ils ont fait la conquête du croissant fertile, ils ont coupé la communication entre le patriarcat de Constantinople et les patriarcats orientaux, en particulier les patriarcats d'Antioche et de Jérusalem. Quand les Ottomans arrivent au XVIe siècle, ils rétablissent la communication entre les chrétiens arabes et les chrétiens byzantins, qui avait été coupé pendant 9 siècles. Ce qui fait qu'au XVIe, XVIIe siècle, vous aurez une lutte au couteau entre les envoyés du patriarcat de Constantinople et les envoyés de Rome pour savoir qui prendra le contrôle des églises orientales. Donc, on a paradoxalement parlé d'une byzantinisation de l'Empire ottoman. Et le résultat va être une série de paradoxes. Les chrétiens qui passent à Rome, les uniates, conservent leur hiérarchie arabe, encadrée par des missionnaires. Les chrétiens qui reconnaissent l'autorité de Constantinople perdent leur hiérarchie arabe qui est remplacée par une hiérarchie de moines grecs, ethniquement parlant. Donc, ceux qui sont plus arabes, ce sont les catholiques, et tandis que ceux qui sont restés dans l'orthodoxie, enfin, qui sont restés dans l'orthodoxie, en fait, la question n'est pas qu'ils soient restés ou non, c'est le fait que les patriarcats orientaux, du fait de la conquête ottomane, se trouve pris entre Rome et Constantinople. Et ça va amener ce qu'on appelle le schisme de 1724 et la constitution d'une église orthodoxe catholique, l'église melkite ou grecque catholique, encadrée par les missionnaires, mais dont les patriarches sont arabes. Les patriarches et les évêques sont arabes, tandis que les orthodoxes qui sont restés ont des patriarches et des évêques grecs et pas arabes. Mais tout ça, évidemment, amène aussi une lutte culturelle qui font qu'entre catholiques et orthodoxes, c'est à qui donnera la meilleure éducation, la meilleure formation, etc. Donc le niveau culturel des chrétiens est beaucoup plus élevé, ne serait-ce que dans la compétition entre Rome et Constantinople pour le contrôle des chrétiens d'Orient. Il faut aussi rappeler que ces chrétiens d'Orient, s'ils sont urbains en bonne partie, ont une solide base rurale. Vous avez des campagnes chrétiennes, en particulier dans les montagnes. Et ça, nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur la question des montagnes. L'autre groupe non musulman, ce sont les juifs. Alors, vous avez évidemment des juifs qui sont là depuis des siècles. Mais en pratique, l'Empire ottoman coïncide avec l'arrivée des juifs d'Espagne, des juifs séfarades. les Juifs séfarades qui sont expulsés d'Espagne à partir de 1492 et à qui l'Empire ottoman ouvre la frontière. Et donc, ils entrent massivement dans l'Empire ottoman pour des raisons qu'on aura l'occasion de revenir quand on étudiera les flux démographiques. Alors, surtout dans les Balkans, puisque Salonique va devenir la grande ville juive de l'Empire ottoman. Mais vous retrouvez des Juifs séfarades en Palestine, en Anatolie, en Égypte, etc. Au point que progressivement, les Juifs séfarades vont assimiler à eux les Juifs, entre guillemets, autochtones, Romayoi, comme on disait, de l'époque byzantine. C'est ce qu'on appellera ensuite Juifs séfarades, la totalité de ces Juifs orientaux. Alors, c'est la différence entre Juifs et chrétiens, c'est que les Juifs n'ont pas de base rurale. Et ça, évidemment, ça va peser lourd pour la suite des événements. Ces Juifs espagnols arrivent avec un haut niveau de technicité, puisqu'ils faisaient partie des élites d'Al-Andalus. Mais ils perdent progressivement le contact avec les sources du nouveau savoir européen, à l'époque moderne, alors que les chrétiens d'Orient, eux, sont en train d'accélérer leur formation aux nouvelles méthodes européennes au XVIIe et XVIIIe siècle grâce aux missionnaires catholiques. Le résultat, c'est qu'à partir du début du XVIIIe siècle, les Melkites sont en train d'expulser les Juifs des positions essentielles dans les domaines clés de l'administration et des finances des provinces arabes de l'Empire ottoman. Vous avez donc, ça commence vers 1720-1730, et ça va durer un siècle. En un siècle, les Juifs vont perdre pratiquement toute leur position commerciale et financière dans les provinces arabes, au profit des Grecs catholiques, surtout. Phénomène qui connaît son parallèle dans le reste de l'Empire. Les Juifs perdent leur position de force dans le système impérial ottoman à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais là, ce ne sont pas les Grecs catholiques qui les chassent, ce sont les Arméniens. Mais on a là donc une décadence progressive des communautés juives de l'Empire ottoman, même s'ils ont conservé quelques contacts avec l'Europe via Livourne, avec au contraire cette montée en puissance des églises chrétiennes. Alors, les Arméniens sont aussi plutôt gagnants de l'Empire, puisque les grands banquiers arméniens, les Sarafs, contrôlent les finances de l'Empire. Et donc, tout l'effort de guerre, toute l'action administrative de l'Empire ottoman est financée par ces banquiers arméniens qui sont aussi en relation commerciale avec les Arméniens de Perse et d'Inde, puisqu'ils font le commerce avec l'Inde, et aussi avec l'Europe, puisque vous avez des Arméniens en Europe latine, en Italie, etc. Ce qui fait que le XVIIe et le XVIIIe siècle est la grande apogée des Arméniens de l'Empire ottoman, et on le verra, enfin le voir techniquement parlant, par la constitution de ce qu'on appellera plus tard le quartier arménien de Jérusalem, qui marque la puissance des banquiers et des élites arméniennes dans l'Empire au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette circulation, nous sommes dans un empire, les gens circulent. L'empire, c'est la libre circulation. Et donc, vous avez évidemment beaucoup d'Anatoliens et de Balkaniques qui sont dans l'Empire, ne serait-ce, enfin dans les provinces arabes, ne serait-ce que dans les fonctions administratives et militaires, mais aussi vous avez dans les provinces orientales, enfin asiatiques de l'Empire, beaucoup de Maghrébins qui sont présents en Égypte, en Syrie, On a un seul problème, savoir qui sont ces Maghrébins, parce que les textes les traitent de Maghrébins, mais ça peut être des Turcs d'Anatolie passés par Alger. Ils viennent du Maghreb. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Il y a une circulation très intense d'éléments d'Afrique du Nord dans la partie asiatique de l'Empire. En dépit donc de la grande diversité des langues et des religions, de la force des personnalités locales, il existe bien une société ottomane liée à la communauté des institutions et des modes de vie. Quand le sultan ottoman, le Padishah, le roi des rois, si vous voulez, c'était son titre à persan, a fait la conquête de l'Égypte, il a théoriquement reçu les insignes califaux du dernier calife abbasside qui était en résidence surveillée au Caire. Donc le manteau du prophète, les épées des Rachidoun, etc., tous ceux qui sont actuellement au musée de Topkapi, qui sont les insignes califaux, sont censés avoir été transmis au sultan ottoman par le dernier calife abbasside du Caire. Par ailleurs, il a hérité du système mamelouk l'organisation des pèlerinages à la Mecque, qui est une fonction califale. Il est donc serviteur des deux villes saintes, puisqu'il organise le pèlerinage à la Mecque. Alors, l'organisation des pèlerinages à la Mecque consiste à deux immenses caravanes qui sont organisées chaque année, la caravane d'Afrique et la caravane d'Asie, la caravane d'Afrique passant par le Caire et la caravane d'Asie passant par Damas, où elle se réunit. Et là, on passe ensuite la traversée du désert vers les villes saintes, avec donc deux princes du pèlerinage, deux amirs al-Hajj pour les deux caravanes. Et sur place, le pèlerinage est organisé par l'émir de la Mecque qui est de dynastie chérifienne. Donc l'usage a consisté à appeler cet émir de la Mecque le shérif de la Mecque qui organise sur place le pèlerinage, mais au nom du sultan. Donc la question est de savoir si les sultans ottomans se sont proclamés calife à place du calife à partir de la conquête de l'Égypte. Semble pas que ça ait été leur première préoccupation. Ce qui est certain, c'est que les sultans ottomans ont dans leur titulature les titres califaux. Enfin, ils ont 5 ou 10 lignes de titulature. Mais ils ont les titres califaux dans leur titulature. Et ce qui est moins certain, c'est que les religieux arabes ne sont pas au courant. Enfin, problème des religieux arabes, enfin des religieux musulmans en général, à l'époque classique, c'est qu'ils écrivent toujours ce qui doit être et non pas ce qui se passe en réalité. Ce qui fait que les religieux d'Al-Azhar vont rédiger d'importants traités sur le califat et l'imamat musulman au XVIIe, XVIIIe siècle sans jamais mentionner le nom du sultan ottoman. Mais ce sont des exercices de pure théorie. C'est que le monde réel ne les intéresse pas. Dans le monde réel, il y a un serviteur des Belles Saintes, commandeur des croyants, calife de l'islam, dans sa titulature. Mais celui-ci n'en tire pas très grande vanité. Il faut rappeler que de toute façon, on l'a vu ce matin au séminaire, le sultan du Maroc est aussi commandeur des croyants, mais aussi que les grands moghols de l'Inde sont aussi califes. Autrement dit, dans cette époque moderne, disons entre le XVIe et XVIIIe siècle, vous avez plusieurs grands empires musulmans détenus par des califes, mais tout le monde comprend très bien que chacun est calife chez soi et pas chez les autres. On peut dire en propre nom qu'on est calife en son propre royaume, comme le roi de France était empereur en son royaume. Donc il n'était pas question que le calife de Constantinople puisse s'intéresser aux musulmans indiens, aux musulmans marocains, aux musulmans d'Asie centrale, aux musulmans de Chine. C'était en dehors de son royaume. C'est-à-dire qu'il y a bien une notion califale, mais c'est une notion califale qui se confond avec les frontières de l'État. Et c'est aussi valable pour le Maroc, c'est valable pour les grands Moghols. Bon, ce n'est pas valable pour les Safavides parce qu'eux, ils sont chiites. Mais, alors justement, vous avez l'Irak, qui est la zone frontière avec la Perse chiite, avec laquelle on est régulièrement en guerre. Donc, c'est un espèce de Far West où ça tire de tous les côtés. Bon, il y a des contingents militaires parce que c'est un peu le désert des Tartares. Je veux dire, la guerre peut éclater à tout moment face aux Persans. Damas est un lieu essentiel, donc interdit aux Européens, puisque c'est le lieu de concentration de la caravane d'Asie, dans le quartier du Médan. C'est là où se concentre la caravane d'Asie avant qu'elle parte vers les villes saintes. Alors, pendant quelques décennies, les Ottomans ont fait face à la menace européenne dans l'océan Indien, et puis ils ont lâché parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et de toute façon, très progressivement, une nouvelle puissance musulmane est apparue dans l'océan Indien. Et donc, pour contrôler les eaux les plus importantes, c'est-à-dire les côtes africaines, c'est Oman, sultanat d'Oman, qui se constitue un empire qui va descendre jusqu'à Zanzibar et au-delà. Et pour mémoire, les Omanais pénétreront en Afrique noire jusqu'à peu près l'actuel Rwanda. Donc c'est Oman, mais Oman n'est pas sunnite, hein. C'est autre chose, c'est un sultanat ibadite, harijite, donc d'une autre, ni chiite, ni sunnite, une autre branche de l'islam. Mais disons que dans l'océan Indien, la grande puissance musulmane, c'est Oman et pas les Ottomans. D'ailleurs, les Ottomans qui avaient occupé le Yémen pendant un siècle sont obligés de quitter le Yémen devant la révolte des tribus zaïdites, chiites, mais pas du même schisme que celui de l'Iran, qui les chasse. Et c'est la création de l'imamat zaïdite dans le Yémen. Pour le reste, les Ottomans font la conquête de la Méditerranée orientale. 1570, Chypre. Donc, la grande menace franque disparaît quand Chypre est prise. Et puis, c'est la conquête de la Morée péloponnèse et surtout cette longue guerre qu'on appelle la guerre de Candie, qui est la conquête de la Crète au milieu du XVIIe siècle. Autrement dit, les Francs sont chassés de Méditerranée orientale, qui était une mer franque à la fin des croisades, hein, je vous le rappelle. Donc, pour les provinces arabes, les Francs deviennent de plus en plus lointains, puisque la ligne de bataille, elle se situe maintenant sur l'Adriatique. Bon, il y a eu un excellent livre de Gérard Beaumarède auquel je vous renvoie pour en finir avec les croisades, qui montre la complexité des guerres méditerranéennes des Espagnols et des Ottomans, et montrer que les mercenaires passaient d'un camp à l'autre dans ces guerres qui ne pouvaient pas être totalement assimilées à des croisades. Mais toujours est-il, si vous voulez, que la ligne frontière, c'est l'Adriatique et plus la Méditerranée orientale. Il en résulte qu'il y a bien une paix ottomane extérieure quand on est en Syrie ou en Égypte, les francs, sauf commerçants, mais les francs militaires, ont disparu de l'horizon. Ça se traduit dans le paysage. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans le Levant, vous voyez les fortifications, on vous dit les châteaux francs. C'est vrai que ce sont des châteaux qui ont été élaborés en particulier à l'époque des croisades, mais qui ont été continués d'être fortifiés à l'époque mamelouque. La première enceinte du krach des chevaliers est mamelouque, elle n'est pas croisée. Mais passé le XVIe siècle, il n'y a plus de fortifications, parce qu'il n'y a plus de menaces extérieures. Les dernières fortifications construites sont des fortifications d'Apara, c'est les murailles de Jérusalem, faites par Suleiman al-Kanouni, Suleiman le Magnifique, mais ce sont des fortifications de parade, parce qu'il n'y a pas de danger concernant Jérusalem. Ça vous explique la quasi-absence au Proche-Orient des fortifications à la Vauban. Alors que si vous allez sur la côte adriatique, vous en voyez absolument partout. Ça montre que la ligne de front s'est bien déplacée. Alors, s'il n'y a plus de guerre extérieure, il y a des petites guerres intérieures. Des petites guerres qui sont mal connues. On a des ligues de villages qui s'opposent les uns aux autres, des ligues de population. Alors, elles portent souvent le nom des grandes confédérations arabes de la conquête, Quraysh ou Yémen. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que musulmans et chrétiens participent aux ligues, donc elles sont non confessionnelles, qu'elles font beaucoup de dégâts. Pour certains historiens, disons que c'est du hooliganisme de supporters de football un peu magnifié. Mais en tout cas, ces guerres de ligue vont durer jusqu'à assez tard. Bon, pour des raisons, parce qu'il y a un perdant au Liban, ça va se terminer au début du XVIIIe siècle, la reine d'Ara. Ça va durer en Égypte jusqu'à 1750-1760. Et en Palestine jusqu'à 1850. Mais on ne sait pas plus de détails sur ces ligues locales, sauf que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. En dehors de ces ligues, vous avez les bagarres urbaines entre les contingents janissaires et les locaux. À Alep, par exemple, il y a les janissaires contre les descendants du prophète. Les shérifs. Et là, il y a des bagarres urbaines assez sanglantes entre les deux groupes dans cette grande ville commerçante. Vous avez des luttes factionnelles entre les gouverneurs ou les adversaires des gouverneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir en partie. Vous avez donc, à l'époque ottomane, un paquet de petites guerres locales, mais pas de grandes. Alors, ça rend compliqué parce qu'on peut faire des chronologies avec des tas de batailles locales, mais en général, ces batailles font 20 ou 30 morts. Et puis, ça continue en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les distances par rapport au pouvoir central. On ne peut pas gérer de façon totalement centralisée les provinces arabes. Donc, comme le reste de l'Empire, on entre dans une logique de décentralisation. Alors, pendant longtemps, les historiens ont pris la décentralisation ottomane comme un signe de décadence politique. Hein, il y a toujours eu, en particulier chez les historiens français, des tropismes jacobins qui faisaient que dès que ça décentralisait un peu trop, c'était la fin du pouvoir de tout, etc. Aujourd'hui, les historiens ont une vue plus mesurée du phénomène et considèrent qu'au XVIIIe siècle, on a plutôt une sorte de Commonwealth ottoman. C'est-à-dire que le pouvoir est d'un côté extrêmement décentralisé, mais que d'autre part, vous avez une classe dirigeante qui continue de tourner entre les provinces. Et surtout, vous ne pouvez pas gouverner sans avoir l'investiture du pouvoir central. Sinon, vous êtes un rebelle. Et donc, on a un exemple bien connu. C'est un chef bédouin de Galilée, d'ailleurs Omar al-Zaïdani, qui constitue un pouvoir autonome en Galilée au milieu du XVIIIe siècle. Mais il n'arrive pas à se faire reconnaître par l'autorité ottomane. Il est considéré comme rebelle. Et donc, le pouvoir central lui lâche dessus un grand méchant, un grand mamelouk bosniaque, Ahmad Pacha al-Jazar, le boucher. Et ce n'était pas pour son amour pour la viande qu'on l'avait traité de boucher, qui, en effet, va liquider les Zaïdani et constituer un pouvoir fort autour de la ville de Akka. Et comme vous le savez, Ahmed Pacha al-Jazar sera celui qui bloquera avec l'aide des Anglais Bonaparte en 1799 au siège d'Acre. Alors, c'est ainsi constitué pour le Proche-Orient à partir des années 1770-1780. Quelque chose qu'on peut appeler, à défaut d'autre chose, le proto-État de Acre, qui est une espèce d'axe qui part de Acre vers la Galilée et de la Galilée remonte sur Damas. C'est un axe pivot qui fait que celui qui contrôle Acre peut frapper aussi bien au nord qu'au sud. Au nord, Jamar Pacha al-Jazar ratatine les pauvres chiites du Jebel Ramil, actuellement Liban Sud, pour les ramener à l'ordre. Il les massacre copieusement, il les incendie et tout. Et il fait des émirs de la montagne libanaise, on aura l'occasion d'y revenir, ses marionnettes. Et au sud, Ahmad Pacha al-Jazar, de temps à autre, soit en grande partie de la Palestine en gouvernement. Donc, Acre est une puissance locale, mais on ne contrôle Acre que si on a le brevet d'investiture du pouvoir central. Alors, Ahmad Pacha al-Jazar n'était pas fou, il payait les impôts avec 3 ans de retard au pouvoir central. Donc, le pouvoir central disait, si on renvoyait Ahmad Pacha al-Jazar, on risquait de perdre 3 annuités d'impôts. Donc, on le maintenait sur place. Bonne technique fiscale. Alors, la culture de ces provinces arabes, comme du reste de l'Empire ottoman, est une culture du manuscrit. Ce qui limite évidemment l'accumulation du savoir. La grande mutation du savoir occidental, c'est l'imprimerie à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Quand on est dans le manuscrit, c'est très simple. Quand vous écrivez un texte, vous adressez à 10 personnes et pas à 500 ou à 5000. Et donc, ça change tout. Les mosquées. Alors, évidemment, la conquête ottomane a fait disparaître les grands sultanats locaux. Donc, elle a fait disparaître la culture de cour. Donc, c'est une explication qui est traditionnellement donnée pour la disparition du grand savoir des cours de l'époque médiévale arabe, puisque vous n'avez plus de sultans entourés de poètes, de philosophes et d'écrivains. Vous n'avez plus que des gouverneurs qui sont là pour 2 ou 3 ans et qui ne parlent pas l'arabe. Ça change évidemment beaucoup de choses dans la relation culturelle. Dans les mosquées, on continue à produire des écrits religieux, juridiques et linguistiques. Et sinon, la littérature profane, proprement dit, se limite à une production de chroniques des événements locaux qui sont vraiment des chroniques locales. On ne parle pratiquement pas de ce qui se passe en dehors de la province dans ses chroniques, même si certains de ses chroniqueurs peuvent être de vrais écrivains. Dans tous les milieux sociaux, on pratique assidûment la poésie. C'est encore le cas aujourd'hui dans la région arabe, mais tout le monde fait ses poèmes, ses qasida. Il y a une production industrielle de poèmes dans cette région du monde. Vous avez une importante culture orale, diffusée par des conteurs, avec des grands cycles romanesques, dont sera sorti « Les mille et une nuits » et « Un geste de Sultan Baybars ». Mais il est à noter que, pour l'histoire littéraire et culturelle, que « Les mille et une nuits » et « Baybars » ne seront connus mondialement que par le biais de la culture européenne. C'est à partir du début du XVIIIe siècle que Galland, professeur au Collège de France, commence à traduire « Les mille et une nuits ». Et la première édition des Mille et Nuits est évidemment une édition française. Alors parfois, il y avait des problèmes. Quand Galland était à court de manuscrits, il en inventait. Donc il semble que c'est lui qui a inventé Aladdin et que ce n'était pas dans le cycle original. Et puis, Sultan Baybars, c'est typique. Bon, on a retrouvé deux ou trois manuscrits de Sultan Baybars, mais la première édition de Sultan Baybars en France, en arabe et en français, ce sont les Français qui l'ont faite. Ce qui encore montre un problème des situations littéraires dans le monde arabe contemporain. Alors, on peut toujours discuter de la valeur de cette littérature arabe à l'époque ottomane, mais à dire vrai, on la connaît très mal, puisque ce sont essentiellement des milliers de manuscrits que personne n'a lus depuis deux ou trois siècles et qui s'accumulent dans les coins. Sur le plan de la pensée, le contraste est très fort avec la Perse, chiite, où la grande tradition philosophique nourrie de l'hellénisme antique se poursuit. Mais en Perse, il y a une cour impériale. Et en plus, il y a un chiisme qui adore penser. Dans tout ça, les discussions avec les Européens, les Francs, passe par un intermédiaire oral qu'on appelle la lingua franca, qui est un espèce de créole de parler latin de la Méditerranée avec des mots arabes et turcs. Avec la lingua franca, on se fait comprendre partout, du Maroc au Balkan, mais il semble que l'utilisation de la lingua franca soit limitée aux besoins de la vie commerciale et de la vie quotidienne. Si vous voulez un passage de lingua franca, je vous rappelle que la turquerie du bourgeois gentilhomme de Molière est en lingua franca. Vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Conquête ottomane a eu lieu dans un monde vide, parce que tout simplement, les 14e et 15e siècles ont été aussi dans le monde de l'islam une catastrophe démographique avec les grandes pestes. On vous dit toujours, l'Europe a perdu le tiers de sa population, le monde arabe aussi. La grande peste, elle ne s'est pas limitée à l'Europe chrétienne, elle a frappé très très durement le Proche-Orient. Les premières décennies du régime ottoman ont vu l'ordre régner, assurant une grande sécurité à la population, d'où une croissance économique et une impression de prospérité générale. Néanmoins, à partir de 1550, nous avons l'occasion d'y revenir, on va l'étudier tout de suite d'ailleurs, commence le petit âge glaciaire en Méditerranée. Ça, c'est une découverte récente des historiens. L'histoire du petit âge glaciaire, bon, c'est le roi Ladurée qui a commencé à l'analyser pour l'Europe de l'Ouest, mais c'est que plus récemment qu'on s'est intéressé à l'impact du petit âge glaciaire en Méditerranée, ce que n'avait pas fait le roi Ladurée. Alors, schématiquement, les espaces de basse altitude en Méditerranée, les plaines littorales et les vallées, se sont trouvés régulièrement inondés par une augmentation des précipitations. laissant donc devenir inhospitalière pour l'agriculture savante des siècles précédents. Vous savez, à l'époque médiévale, vous avez toute une agriculture extrêmement savante dans les littoraux de la Méditerranée. Les paysans ont abandonné les littoraux qui, du coup, sont devenus des zones marécageuses qui ont introduit avec eux la malaria. Ce qui fait que l'ensemble de la Méditerranée, des littoraux méditerranéens, deviennent malariés à partir de 1550-1600. L'agriculture méditerranéenne s'est alors repliée sur les régions de collines et de petites montagnes, avec le développement de cultures en terrasse, favorisant les cultures arbustives, bien que les céréales restent présentes. Puisque les littoraux étaient inhospitaliers, on est allé cultiver les hauteurs. Et donc, ces paysages méditerranéens que vous croyez être pluriséculaires, avec tout ce réseau de terrasses, est une production du petit âge glaciaire. Face à cette agriculture très arbustive, oliviers, vignes, etc., vous avez un pastoralisme qui fonctionne en pâturage d'été sur les hauteurs et en pâturage d'hiver sur les littoraux. Dans les régions intérieures, donc pas sur le littoral, mais de l'autre côté des montagnes méditerranéennes, en revanche, du coup de la faiblesse des précipitations, vous n'avez plus de malaria. Et donc, vous avez maintien d'une culture sèche et irriguée sur les plaines intérieures. Le fait majeur de l'écologie régionale est la zone de transition entre l'agriculture et le nomadisme, constitué par les secteurs où il tombe entre 500 et 200 mm d'eau par an. Avec 350 mm, l'agriculture céréalière est encore possible. Ensuite, elle devient de plus en plus difficile du fait des irrégularités des précipitations. À 200 mm, le nomadisme devient la règle. Mais la séparation entre l'espace du nomadisme, la badia, terre des Bédouins, et l'agriculture sédentaire n'est pas seulement une ligne écologique, elle dépend du rapport de force entre nomades et sédentaires. En été, les nomades s'imposent dans la zone de transition et migrent en hiver dans le désert, proprement dit. Il faut ajouter qu'au XVIIIe siècle, on a, semble-t-il, de très grands déplacements des confédérations tribales bédouines de la péninsule arabique, qui remonte le long du croissant fertile. En particulier en Irak, on a tout un changement du système tribal, mais aussi dans le grand désert syrien, dans la badia de Cham, comme on dit à l'époque. Mais aussi, au passage, ces confédérations tribales qui prennent position dans la seconde moitié du XVIIIe siècle créent les émirats actuels qui vont de Koweït jusqu'à la fédération actuelle des émirats, qui sont des créations de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Évidemment, sur des terres de très vieilles implantations humaines, puisqu'on a des millénaires d'histoire sur des sites des Émirats du Golfe, mais les Émirats actuels du Golfe datent tous pratiquement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous avons là un mélange très curieux entre des Bédouins venus de l'Arabie avec des populations de pêcheurs et de commerçants. Et ces gens des Émirats font du commerce au long cours, non seulement avec la rive persane du Golfe, mais avec l'Inde. Ce qui est important et essentiel à noter, c'est que vous avez une ligne de séparation, qu'on appelle la ligne du désert, qui s'enfonce très à l'intérieur des régions cultivables, ce qui est marqué par la présence de très nombreux villages abandonnés, ainsi que la multiplicité des sites antiques qui se trouve maintenant en pleine Badia. De même, les groupes bédouins se sont installés sur les littoraux, abandonnés par les sédentaires. Donc, vous avez des tribus bédouines sur les littoraux méditerranéens, en Palestine en particulier. Il en est de même en Égypte, où le domaine agricole du delta s'est rétracté devant la pression bédouine, ce qui fait que entre bédouins et fellahs, il y a une haine absolument féroce, qui est encore le cas aujourd'hui. Là, on a pu faire la cartographie de tout ça pour le début du 19e siècle. Vous voyez sur cette carte. Ah, lumière, s'il vous plaît. Vous avez ici la région de Hama et Homs en Syrie centrale. Vous voyez très bien en position foncée les villages sédentaires et en position claire les villages abandonnés qui montrent les progrès de la Badia à l'époque médiévale et ottomane puisque toute cette région était cultivée dans les siècles précédents et se trouve hors culture en pleine bédouinité au début du 19e siècle. Ceci est pour la région un peu plus au sud du Oran, où vous voyez donc vous voyez ici la zone sédentaire qui forme une espèce d'haricot, et c'est toute cette zone qui va former ce qu'on va appeler au 19e siècle la montagne des Druzes, avec le repeuplement et l'arrivée des Druzes au début du 19e siècle dans ces régions, mais qui, vers 1800, est encore une zone bédouine. Et ici, c'est encore plus caractéristique, vous avez le nord de la Jordanie actuelle, où vous voyez ici les zones sédentaires, et à partir d'ici, toutes les zones bédouines. Et tout ça, ce sont des sites qui sont d'anciens sites de sédentarité. Donc, ça, c'est des relevés que l'on a pu faire à partir de sources diverses, mais qui marquent très bien combien les espaces agricoles se sont rétractés durant ces périodes. Alors, ce qui est plus difficile de savoir, c'est quand la rétraction, la diminution a eu lieu. Mais on voit, par exemple, des tas de sites antiques avec des villes importantes qui se trouvent en pleine Badia aux alentours de 1800. De ce fait, comme de l'autre part, le danger vient aussi de la mer avec les pirates chrétiens, parce qu'évidemment, si les chrétiens se plaignent des pirates musulmans, il est clair que les musulmans passent leur temps à se plaindre des pirates chrétiens en Méditerranée, ce qui est tout à fait logique. La population dans les régions syriennes et palestiniennes s'est rétractée sur les montagnes. Alors que vous avez ces énormes vides dans les plaines intérieures, comme la montrent les cartes précédentes, les montagnes sont devenues des montagnes-refuges de culture intensive, avec de très fortes densités de population, regroupant des dizaines de villages souches à peu de kilomètres les uns des autres. Il n'y a pas de différence confessionnelle, contrairement à la légende. Ainsi, si le mont Liban est majoritairement chrétien et druze, le Jabal Ramil, plus au sud, est chiite, et la Cisjordanie est majoritairement musulmane sunnite. Mais dans tous ces espaces, on a ce réseau de très gros villages sur les hauteurs, parce qu'ils ne sont pas fous, ils ne sont pas comme les Français d'aujourd'hui qui se mettent en plaine et qui ensuite se plaignent d'être inondés. les paysans méditerranéens, ils sont toujours mis sur les hauteurs. Donc, vous avez cette extrême densité de ces gros villages souches qui vont de la Cisjordanie, le Jabal Ramé, le Mont Liban, la montagne des Alaouites, etc., qui forment donc cette notion de montagne-refuge. Alors, au XIXe siècle, les historiens auront inventé une notion de montagne-refuge comme quoi les populations fuyant les autorités se seraient réfugiées dans les montagnes où elles auraient pu montrer leur esprit d'indépendance. Aujourd'hui, on considère que ces montagnes-refuges sont d'abord des refuges écologiques et non pas politiques. Elles sont liées aux mutations du système agricole avec la fin du petit âge glaciaire. D'autant plus que la région est soumise à la persistance des épidémies. La région apparaît globalement sous-peuplée par rapport à ses ressources potentielles. L'Anatolie a des densités de population plus élevées et les Balkans encore plus élevées. C'est ainsi que les voyageurs européens au Proche-Orient au XVIIIe siècle voient tous ces villages abandonnés et disent que c'est la faute au despotisme ottoman. Le grand commerce a été progressivement détourné, non pas tellement par l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien, mais plutôt par l'arrivée des Hollandais qui ont transporté de façon plus massive, mais les produits ont changé. L'Inde est devenue le premier producteur mondial de textiles, commençant à inonder les marchés européens d'indiennes. Donc, une partie des textiles indiens traverse l'espace iranien et ottoman vers la Méditerranée. Mais ensuite, l'arrivée des Français et des Anglais en Inde fait que les Européens captent les exportations des Indiennes à destination européenne. Donc, progressivement, le Proche-Orient cesse d'être traversé par le grand commerce mondial, mais c'est remplacé par des commerces de moindre envergure, dont le plus important est le commerce du café à partir du Yémen, puisque jusqu'à 1750, c'est la première région productrice de café dans le monde. Mais ensuite, les Européens volent des plants de café et les installe dans les Antilles et donc commence à produire du café dans les colonies d'Amérique, ce qui va progressivement supplanter le café du Yémen. Autre idée essentielle à retenir, il n'y a pas de route. Depuis les conquêtes arabes, il n'y a pas de route, puisque les instruments de transport essentiels sont le chameau et le mulet. Et les chameaux et le mulet, ce sont des 4x4 qui passent partout, donc qui se contentent de pistes. Donc on a abandonné la route, parce que la route veut dire la charrette. Il n'y a plus de charrette, il n'y a plus de route, il n'y a plus que du 4x4. Et donc, périodiquement sur les pistes, vous avez des chamotelles, qu'on appelle des rannes, qui servent à recevoir les caravanes au passage. En Méditerranée, la supériorité navale européenne est écrasante du point de vue de la technique. De plus, les navires européens ne sont pas soumis à la piraterie maltaise, contrairement aux navires musulmans. Le résultat, enfin, la course maltaise si vous êtes de l'autre côté, hein, évidemment, le résultat, c'est que les commerçants musulmans utilisent les navires de commerce européens pour faire le cabotage entre les ports ottomans, ce qu'on appelle la caravane maritime. Il y a donc une symbiose entre le cabotage européen et le commerce entre musulmans au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, les choses commencent à évoluer à la fin du XVIIIe siècle parce que vous avez la montée en puissance de la marine grecque, mais elle est encore ottomane à cette époque-là, à ce moment-là. Autre point essentielle. L'Europe a été victime de la peste, mais elle a cherché à s'en protéger. Elle n'a pas évidemment trouvé le vecteur de la peste. Ce ne sera qu'à la fin du XIXe siècle qu'on trouvera le vecteur de la peste comme on trouvera le vecteur du choléra. Mais par tâtonnements successifs, les Européens ont inventé le système de la quarantaine. Et de ce fait, il y a un mur en Méditerranée. Le passage entre l'Europe et l'Empire ottoman passe par des sas sanitaires dotés de quarantaine, soit des sas qui sont des ports, soit des sas terrestres quand on est en Ukraine ou dans les Balkans. L'idée essentielle, c'est que l'on ne peut passer du monde ottoman au monde chrétien qu'en étant bloqué un mois en quarantaine. Alors, en France, vous avez une seule quarantaine puisque tout le passage est monopolisé par Marseille. Et donc, tout navire venant de l'espace ottoman est bloqué en quarantaine avant d'entrer à Marseille. Et vous savez l'histoire, en 1720, un commerçant a refusé la quarantaine et est passé. La peste a éclaté à Marseille. Et à ce moment-là, l'État royal a envoyé l'armée qui a encerclé Marseille et qui a donné l'ordre à l'armée de tirer à vue contre tout habitant qui essaierait de quitter Marseille. La tiers ou la moitié de la population de Marseille est morte, mais le royaume de France a été épargné par la peste. Ce qui vous indique cette grande mutation de la création de l'État moderne en Europe, qui n'est pas seulement un État qui fait la guerre, mais qu'un État sanitaire capable de maintenir une barrière sanitaire efficace par rapport aux épidémies. En revanche, l'Empire ottoman est frappé constamment par des épidémies de peste. Alors, beaucoup de recherches ont été faites, en particulier par un de mes amis, le regretté Daniel Panzac, qui a fait un livre très brillant sur la peste de l'Empire ottoman. Ce qui semble clair, c'est qu'il y a des foyers endémiques de peste dans les Balkans, mais que ces foyers endémiques s'éteignent les uns après les autres au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui fait que le foyer principal de peste se trouve en Anatolie, dans la région dite du Kurdistan, et que périodiquement, la peste part de façon épidémique de cette région pour frapper l'ensemble de l'Empire, en suivant évidemment les lignes commerciales. Donc il y a pratiquement une grosse épidémie tous les 15 ou 20 ans. Et en revanche, les Européens sont épargnés. D'autre part, les régions qui sont montagneuses, pour des raisons écologiques diverses, sont aussi épargnées par la peste qui touche plutôt les populations urbaines que les populations rurales. Enfin, il semble bien que pas mal de chrétiens d'Orient commencent à suivre les précautions sanitaires inculquées par les missionnaires catholiques et qu'elles sont donc relativement plus épargnées que les populations musulmanes par la peste, ce qui serait aussi l'un des facteurs d'explication de la croissance démographique des populations chrétiennes. Alors, autant qu'on puisse le savoir, le Proche-Orient connaît les mêmes rythmes démographiques que l'Europe, avec un XVIe siècle de récupération démographique après les grandes pestes de l'époque précédente. On a un mauvais XVIIe siècle. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même aux Européens. Et un bon XVIIIe siècle, comme en Europe. Cela dit, si le rythme démographique est à peu près le même que celui de l'Europe, les amplitudes sont beaucoup plus faibles, surtout les amplitudes de croissance. Autrement dit, quand le décalage démographique européen commence à se produire au début du XVIIIe siècle, on a un phénomène que de très faible amplitude dans l'Empire ottoman. Rien à voir avec la croissance démographique qui s'enclenche en Europe de l'Ouest. Pour mémoire, on va avoir 19 à 20 millions d'habitants en France à la mort de Louis XIV. En 1715, et on doit avoir 26 ou 27 millions d'habitants dans la France de Louis XVI. On n'a pas des croissances équivalentes dans l'espace ottoman, sauf peut-être dans une partie des Balkans. Voilà, ben je suis trop bavard, et donc nous allons continuer la fois prochaine pour aborder les mutations de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Voilà. Heureusement que je n'ai pas commencé à la préhistoire.